Alors, cette présentation s'appuie sur des résultats d'une recherche qui visait à comprendre les ressorts de la construction de la professionnalité des nouveaux enseignants qui entraient dans le métier et que j'ai mené auprès d'un groupe particulier, donc des professeurs d'éducation physique affectés en lycée professionnel. Et ce groupe particulier m'intéressait car leur formation initiale ne les préparait pas particulièrement à l'enseignement en lycée professionnel. Donc ce qui fait qu'effectivement j'ai pu accéder aux façons de faire liées à leur professionnalité. Et autre précision, ces enseignants donc ont eu une formation en UFM avant la masterisation. L'arrivée de nouvelles modalités de CCF en éducation physique en lycée professionnel a constitué pour moi un levier qui m'a permis d'accéder au travail de ces enseignants. Parce qu'il est arrivé une nouvelle prescription, donc des nouvelles modalités d'évaluation, j'ai pu aller les questionner, mener des entretiens pour essayer de mieux comprendre comment ils mettaient en place cette nouvelle prescription et comment ils faisaient pour préparer les élèves, pour enseigner, parce que lorsque l'on évalue, le moment de l'évaluation révèle beaucoup de choses de ce qui est appris en amont. Donc j'ai ainsi pu étudier la façon de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par des enseignants entrant dans le métier. Et aussi, je me suis aussi intéressée à la façon dont les enseignants déjà en place, déjà en poste, les enseignants expérimentés, appréhendaient cette nouvelle prescription. Alors, précision, ce nouveau CCF est porteur d'une rupture que je nommerai radicale pour la profession dans la discipline, dans le sens où ce CCF était porteur d'une standardisation et d'une normalisation des épreuves. Je m'explique. Avant ce nouveau CCF, dans tous les établissements, il y avait des situations d'évaluation qui étaient complètement différentes, avec des modalités de déroulement différentes et spécifiques à l'établissement. Et ce nouveau CCF implique prescrit une situation particulière définie par les textes et avec des façons de noter plus ou moins définies, et aussi rupture par rapport à ce qui se faisait avant, c'est l'évaluation de compétences qui est abordée, donc des compétences qui sont prescrites et qui sont élargies à des attitudes et des savoirs périphériques à la prestation motrice, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qui se passe le avant. Alors pour illustrer, on s'intéresse à ce qui se passe avant, j'allais dire, le match de badminton par exemple. Voilà, ces compétences sont libellées sous forme de se préparer à réaliser un match en visant la rupture, en créant la rupture. Voilà, donc ce sont des compétences élargies. Cette recherche a aussi été faite évidemment avant la réforme du bac pro en 3 ans, mais je pense qu'elle questionne la professionnalité et qu'elle n'est pas qu'on peut refaire le lien avec les questions qui nous intéressent aujourd'hui. L'enquête, alors comment j'ai réalisé mon enquête? Donc j'ai fait des enquêtes auprès de 2 groupes d'enseignants, des novices d'une part, des chevronnés d'autre part, qui m'a permis de montrer que l'arrivée du nouveau CCF questionnait de façon différente le métier, selon leur formation et selon l'ancienneté. Alors à partir des résultats de l'enquête menée par Patrick Rayou et Agnès Van Zanten sur les nouveaux enseignants, donc cette enquête a été réalisée en 2004, et elle précise quelques points, j'ai relevé juste quelques points qui m'intéressaient pour ce travail. Ces auteurs précisent que l'exercice du métier de ces nouveaux enseignants et plus ils sont plus de type pragmatique d'une part, et d'autre part ils développent des carrières de type horizontal en multipliant les opportunités d'expérience professionnelle dans des établissements différents. Disons que c'est, pour eux, ce n'est pas une rupture dans le métier de changer d'établissement, mais bien au contraire, c'est une façon d'apprendre le métier, la multiplication, enfin les expériences multiples. Donc à partir de ces données initiales, j'ai cherché à savoir comment cette nouvelle professionnalité se déployait chez des enseignants d'EPS en lycée professionnel, donc des nouveaux enseignants. Alors j'ai utilisé une démarche de type ethnographique associée à des outils de la clinique de l'activité auprès d'enseignants chevronnés et débutants dans le métier. Alors débutants dans le métier, je vais préciser que c'était des enseignants qui avaient moins de 5 ans d'ancienneté. Donc dans la littérature, c'est ce qui est qualifié, donc c'est la première étape d'entrée dans le métier. Moins de 5 ans d'ancienneté, et ces enseignants donc avaient la particularité d'avoir exercé déjà une, deux, voire trois années en région parisienne, et ils étaient revenus dans leur académie d'origine, mais ils n'avaient jamais exercé en lycée professionnel. Alors, mon cadre d'analyse est un cadre sociologique, mobilisant d'une part les logiques d'action donc de Boltanski, qui ont été réemployées donc dans le champ de l'éducation par Derouet. Donc, après une analyse dans chacun des groupes, j'ai comparé les résultats. Donc ce sont quelques-uns de ces résultats que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, j'ai observé donc une différence entre les chevronnés et les nouveaux enseignants. Le métier des chevronnés ou des expérimentés, c'est la même catégorie hein, d'enseignants. Donc, le métier des expérimentés est mis à l'épreuve par ces nouvelles modalités d'évaluation, alors que les nouveaux enseignants, eux, s'emparent de ce nouveau dispositif et ils en font une situation de travail pour lesquelles ils construisent des règles de cadrage de la situation de travail. Ils construisent aussi des gestes spécifiques à cette situation particulière. Ce que j'ai pu observer qui est un élément différenciateur, c'est qu'il s'appuie sur une externalisation des règles du travail scolaire. Alors, cette externalisation des règles du travail scolaire, elle repose sur quelques éléments, parmi lesquels, tout d'abord, une délégation de ces règles de travail aux objets. Alors, ces nouveaux enseignants mobilise des objets en nombre. Alors des objets, ce que j'appelle objets, il y a des documents, il y a des fiches, il y a des affiches. Alors je vous rappelle que comme nous sommes en éducation physique, effectivement, c'est un environnement qui n'est pas... ils exercent dans un environnement qui n'est pas spécifiquement destiné à un enseignement scolaire. Donc, il mobilise donc beaucoup d'objets beaucoup d'objets qui sont dépositaires des savoirs qui vont faire l'objet, donc les savoirs qui vont être évalués lors de cette évaluation de CCF. Donc il y a donc les éléments à apprendre qui vont être évalués et qui sont explicités en termes facilement compréhensibles par les élèves. Alors là, je fais le lien avec l'intervention qu'on a eue hier après-midi sur les écrits utilisés. Donc effectivement, c'est sous forme écrite, sous forme de schéma. Et ce que ces enseignants expliquent, il faut que ça soit directement compréhensible par les élèves. D'autre part, ces objets sont aussi dépositaires des règles du travail scolaire. Et alors, ce que j'entends par règle du travail scolaire, c'est-à-dire c'est la forme d'engagement dans les situations, ce sont les conditions de déroulement de cette situation d'évaluation, et surtout aussi, ce sont les éléments de fabrication de la note. Alors, ces objets jouent le rôle de médiateurs entre les enseignants donc, et les élèves, et permettent à ces nouveaux enseignants de placer les règles à distance de, de leur propre personne et en dehors de leurs propres affects. Autre élément qui caractérise ces nouveaux enseignants, il y a tout un travail d'explicitation des règles. Alors, il y a un extrait donc d'une néo-enseignante qui doit s'afficher derrière. Donc, les élèves, ils jouent le jeu. Enfin, ils viennent au cours d'avant parce qu'ils savent que la grille, on la présente, on la prépare. Il n'y en a aucun qui a déboulé juste le jour, qui est venu juste passer le CCF. Ils jouent le jeu scolaire parce qu'il y a tout un travail. Alors, elle précise tout ces éléments parce que les élèves souvent sont absents. Alors, il y a des caractéristiques, il y a des élèves qui sont absents en cours et qui viennent se faire évaluer le jour du CCF, mais il y a aussi des élèves qui sont absents le jour du CCF. Donc, un des critères, c'est qu'il y ait l'ensemble des élèves, présents le jour du CCF. Voilà. Donc, les règles du jeu scolaire, comme cette néo-enseignante appelle ce que j'ai repris et que je nomme le travail scolaire, reprennent donc les éléments d'organisation de l'examen, c'est-à-dire les règles de cadrage de l'examen, ainsi que les critères d'évaluation. Ainsi, cette explicitation favorise leur appropriation par les élèves. Ces enseignants s'appuient sur le côté stratège et cherchent à stimuler l'intérêt scolaire des élèves de LP qui, on le sait, sont en situation de réappropriation du métier d'élève et à qui on ne veut plus en compter et qui veulent aussi sortir gagnant du lycée. Donc, ces règles du travail scolaire ne sont pas uniquement données, mises au jour, mais elles sont travaillées. Elles font l'objet d'un intéressement des élèves qui, se les faisant leur, deviennent véritablement acteurs de leur propre notation. Il y a donc une construction d'un espace d'intéressement. Et là, je fais référence donc à la sociologie de la traduction donc de Calon. Il y a la construction d'un espace d'intéressement du côté des élèves qui peuvent trouver un gain en matière de notes, et de l'autre, les enseignants qui ont un intérêt aussi en matière de contrôle des élèves, en matière de gestion scolaire des élèves. En plus, donc, gestion des élèves qui ne se confond pas avec le temps de notation. Donc, ce travail d'intéressement à la notation leur permet de contrôler. La mobilisation des élèves dans cet espace d'intéressement tient grâce à des règles qui ont été adaptées, qui ont été construites et qui ne vont pas de soi, que les enseignants ont construites pour cette situation particulière et qui sont présentes en permanence dans les objets. Ainsi, les élèves, du côté des élèves, ils n'ont pas l'impression d'être pris au dépourvu ou à défaut, ou par défaut. Donc, dans cette façon d'externaliser les règles, ces enseignants se démarquent de leurs collègues expérimentés, alors dans l'enquête que j'ai menée, et qui, eux, vivent le métier comme une vocation. Dans cette façon d'exercer le métier, ils mobilisent la logique domestique. Donc là, je fais référence aux logiques définies par Derouet, les logiques d'action des acteurs dans un espace. Donc cette logique domestique qui se caractérise par une grande proximité avec les élèves. Alors soit dans une dimension donc éducatives, c'est-à-dire qui sont très proches. Ils jouent le rôle d'éducateurs, de parents. Ils sont dans une grande proximité avec les élèves, ils les rassurent. Et soit dans une dimension plus technique. Alors, ce qui se traduit dans le champ de l'éducation physique par le côté entraîneur de l'enseignant d'éducation physique. Celui qui est le modèle, qui connaît la technique sportive. Voilà. Et dans cette façon d'exercer le métier, ces enseignants usent beaucoup de leur corps. Il y a une forte mobilisation du corps et les règles de travail sont incorporées et elles sont embarquées par la personne. C'est-à-dire que c'est la personne qui porte en elle les règles de travail et du coup, ces enseignants sont fortement sollicités par les élèves. Les élèves ne cessent d'aller les questionner, leur demander ce qu'il faut faire pour réussir, les conditions de déroulement de l'épreuve. Et du coup, ils sont sursollicités le jour de l'épreuve, le jour de l'épreuve de CCF. Donc voilà, c'est un peu une différence entre ces deux façons d'exercer le métier. Alors, chez les nouveaux enseignants, donc cette externalisation des règles repose aussi sur une caractéristique qui est spécifique à ces nouveaux enseignants, qui est qu'ils ont construit la bonne distance selon les contextes éducatifs, selon les contextes d'enseignement. Et l'épreuve de CCF constitue un contexte particulier, le contexte certificatif. Et pour cette épreuve particulière, ils ont construit une distance institutionnalisée, enfin ce que j'ai appelé institutionnalisée, qui se caractérise par une organisation très rationalisée de l'espace, des espaces. Donc l'espace de travail est segmenté, organisé en sous-espaces, affecté à des utilisations particulières, différentes. Il y a l'espace des élèves qui sont évalués. Il y a l'espace où se situe l'enseignant qui est devenu examinateur et qui se situe souvent plutôt loin des enseignants, plutôt loin des élèves, bien à distance pour être en supervision. Et des espaces, alors là c'est spécifique à l'EPS, mais un espace où est entreposé le matériel pour réaliser donc l'épreuve. Et dans cette organisation des différents sous-espaces, donc cette organisation repose sur des règles de fonctionnement qui ont été anticipées et construites dans cette visée pour cette épreuve particulière, qui ont fait l'objet d'un travail antérieur avec les élèves. Et par exemple, l'espace du matériel n'est plus géré le jour de l'épreuve par les enseignants. Donc ces sous-espaces peuvent être aussi matérialisés par des objets. Donc certains enseignants utilisent des objets, d'autres non. Et ceux qui matérialisent ces espaces par des objets, ils détournent l'usage technique initial, un certain nombre de petits matériels qu'on peut trouver dans un gymnase, dans une salle de danse ou dans une salle de judo par exemple, et il les détourne l'utilisation de ces objets à des fins scolaires et à des fins d'épreuves scolaires, d'examens scolaires. Un autre élément aussi qui caractérise cette distance institutionnalisée, il y a un déroulement diffus de l'épreuve d'examen. Donc une attention particulière est portée dans la dilution de l'épreuve sur toute la durée où les enseignants accueillent les élèves, où ils ont en charge les élèves, dans la mesure du possible et des conditions de déroulement de l'épreuve prescrite. Et ce déroulement sur toute la durée de la situation de l'épreuve de CCF permet à ces enseignants à la fois d'être dans le contrôle scolaire, donc contrôler les élèves, et d'un autre côté, évaluer les élèves. Donc tenir les élèves dans la forme scolaire et d'un autre côté les noter. Ce qui est différent de ce que j'ai pu observer chez les autres enseignants qui évaluent juste sur un court moment les élèves et dans la proximité. Mais j'y reviendrai après. Un autre élément aussi qui caractérise, donc qui est spécifique de cette distance institutionnalisée, c'est la présence du contrat de notation. Alors, vous pouvez lire un extrait d'un enseignant novice qui exerce dans un établissement avec des élèves difficiles. Enfin, lui, il ne les caractérise pas difficiles. Il dit que ses collègues disent que ce sont des élèves très difficiles. Et pour lui, c'est insupportable que les élèves ne comprennent pas la note. Donc, il faut absolument que les élèves aient toujours accès aux conditions de notation. Et c'est pour ça qu'il explique que c'est écrit, c'est taillé dans la pierre, c'est gravé dans la pierre. Quoi. C'est très fortement présent. Donc, la construction de cette distance donc, ne va pas sans la présence, ce que je viens de dire, de la construction de la présence du contrat de notation qui est très clairement matérialisé et facilement accessible et qui s'interpose entre l'enseignant et les élèves. Et ce qui permet aussi à ces nouveaux enseignants de s'installer dans la posture de l'examinateur. Alors, la construction de cette distance institutionnalisée différencie donc les nouveaux enseignants d'enseignants expérimentés. En effet, ces derniers travaillent habituellement plus dans la proximité avec les élèves et pour préciser aux élèves qu'ils sont en situation d'examen, il y a un temps de mise à distance des élèves où ils leur rappellent les critères d'évaluation, les conditions de déroulement de l'épreuve. Donc cette distance-là marque le moment du début de notation et ensuite ils reviennent dans une proximité avec les élèves, et puisque pour eux cette proximité est importante parce qu'ils souhaitent ne pas lâcher les élèves et les accompagner tout au long de l'évaluation. C'est dans un souci de bien travailler et pour faire en sorte que les élèves réussissent. Donc là c'est une différence donc entre les deux catégories. Alors ces nouveaux enseignants cherchent à donner de l'épaisseur à l'épreuve de CCF grâce à une amplification de la mise en scène de l'épreuve. Donc le gymnase est transformé en véritable salle d'examen. L'élève devient un candidat parmi d'autres dans un espace identique à celui des autres candidats et face à un enseignant devenu examinateur et qui a lui-même construit des gestes adaptés. Donc ce dernier adopte une posture en supervision permettant contrôle des élèves et notation, une attitude inexpressive, donc il recherche surtout à ne rien laisser transparaître auprès des élèves, donc une attitude inexpressive, une attitude silencieuse, dépourvue de tout affect, donc pouvant perturber, c'est leur dire, pouvant perturber leur propre jugement. Donc ce sont autant de gestes professionnels qui ont été construits pour favoriser l'installation de chacun dans le rôle de l'élève, du candidat et de l'examinateur. Cette mise en scène donc, est porteuse d'une dimension cérémoniale dans le sens où il y a un protocole, comme il y a un protocole politique, un protocole militaire, ça renvoie, ça impose et ça donne ça renforce la forme scolaire de cette épreuve. Donc un élément important de cette nouvelle professionnalité serait de savoir conjuguer justement la bonne distance en fonction des contextes. Donc là je vous ai parlé d'un contexte particulier, c'est l'épreuve de CCF, mais il y a d'autres règles et d'autres contextes qui pourraient être celui de la remédiation ou celui de l'enseignant transmetteur, mais je n'en parlerai pas. Et donc la construction de règles stables en fonction de contextes déterminés, là nous avons vu le contexte du CCF, fait partie d'une grammaire sociale qui permet la compréhension du dispositif par les élèves sous réserve de leur systématisation, de leur anticipation et de la programmation dans un environnement plus large, dans un calendrier plus large. Un autre élément qui est caractéristique de cette nouvelle professionnalité, c'est la façon de construire les règles éthiques, et notamment les règles éthiques pour noter les élèves. Donc ces enseignants se trouvent face à ces élèves dont qu'ils doivent évaluer et dont ils ne connaissent pas particulièrement ce qui peut être attendu pour l'examen. Et un des éléments qui caractérise ces nouveaux enseignants, c'est qu'ils construisent des outils de notation qui sont souples, fonctionnels et qui reposent sur une aisance d'utilisation. Ces nouveaux enseignants recherchent une procédure d'évaluation qui leur permet d'attribuer une note en temps réel, donc dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire pour pouvoir, sans avoir besoin de faire des calculs savants en fonction de demi-points, etc., de coefficients, qui est souvent une caractéristique des enseignants expérimentés que j'ai rencontrés dans mon groupe, le groupe que j'ai de mon travail, c'est-à-dire que ils découpent en petites sous-parties les notes et du coup ils ont tout un travail savant de recalcul à faire à la maison, de construction de la note. Voilà, c'est pour ça que je précise cet élément, cette donnée-là, les différencie. Donc, les outils qu'ils utilisent ont un caractère ambulatoire et construit dans leur activité auprès des élèves, mais aussi auprès de leurs collègues de l'établissement et par des échanges dans les collectifs virtuels. Et en cela aussi, il se différencie des enseignants expérimentés. Donc, mais ces collectifs virtuels leur permettent de valider des critères de jugement qui sont alors partagés. Et ça, c'est une caractéristique importante, les critères qui sont partagés par des collectifs de travail. Donc, ce mode d'engagement est une caractéristique des nouveaux enseignants. Donc, ils font preuve d'un fort dynamisme d'engagement dans les réseaux virtuels auprès des formateurs avec lesquels ils ont travaillé en formation initiale, mais aussi avec les inspecteurs qui sont pour eux des partenaires possibles de travail. Et cet aspect-là les différencie aussi des enseignants expérimentés qui fonctionnent différemment dans les relations avec les inspecteurs. Donc ces enseignants donc sont sensibles à la notation, ils sont sensibles à la justice scolaire et à son exercice en acte. Ainsi, pour avoir une activité de notation le plus juste possible, nous avons vu qu'ils mettent en place donc un dispositif leur permettant d'endosser une posture d'examinateur neutre, la mise à distance, la mise en scène de l'épreuve, qui va leur aider à porter un jugement distancié, d'apprécier la prestation de l'élève à partir de repères qui ne sont pas donnés par le texte, mais qu'ils ont construits grâce à leur engagement dans différents collectifs de travail. Ce n'est pas le texte qui fait foi lorsqu'ils mettent une note, mais il y a une sorte d'estimation de ce qui peut être attendu dans le cadre scolaire. Cette estimation correspond à une sorte de mesure symbolique de l'engagement dans l'acquisition d'une compétence scolaire balisée par les règles qui ont été construites et mises en œuvre dans les situations d'enseignement en amont. Et l'ensemble de ces règles élaborées participe donc à la construction de leur éthique et qui ne s'exprime et qui n'a de sens que dans ce cadre précis-là. Donc cette éthique scolaire leur permet d'arbitrer au moment de l'attribution de la note. de CCF et elle fait preuve d'équité. Ça leur permet de travailler sur l'équité, conception d'une justice qui n'est ni issue de loi intangible, ni de leur intime conviction. Alors là, je renvoie cette caractéristique-là, je fais une aparté avec ce qui avait été dit hier dans l'idée de la notion de diplôme maison. Donc peut-être que dans les échanges, nous en reparlerons. Parce qu'il me semble qu'avec une telle approche, on n'est plus dans la dimension diplôme maison, puisqu'il y a un partage donc des règles d'éthique. Je continue. Donc les éléments de cette nouvelle professionnalité, donc rendre explicites les règles de travail, lisibles, et construction d'une éthique scolaire à partir de valeurs partagées, contribuent à renforcer la forme scolaire de ce qui est attendu des élèves, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en dehors du cadre scolaire, ils sont à l'intérieur du cadre scolaire. Et ce qui est attendu parmi les règles de travail scolaire, ça peut être l'engagement, la répétition, l'effort, qui sont autant d'éléments constitutifs de la forme scolaire qui est bien là, qui traverse toutes les disciplines. Donc engagement, répétition, effort, ça traverse toutes les disciplines, et le dispositif, et à travers lui l'enseignant comme acteur de cet ensemble où les règles et les normes n'ont de sens que dans cet espace-là, que dans cet environnement-là. Le travail de l'enseignant consiste à redonner de la forme et du poids à ces règles constitutives de l'espace scolaire, comme par exemple se surpasser le jour de l'épreuve, le jour du CCF. Faire encore mieux que d'habitude, ça pourrait être quelque chose qui est attendu des élèves le jour du CCF. Et l'intérêt pour la note manifestée par ce surinvestissement dans l'épreuve de CCF apparaît comme la preuve de l'intégration des règles scolaires. Donc l'engagement dans l'activité scolaire et son corollaire, donc le surinvestissement le jour du CCF, sont révélateurs de l'appropriation des règles scolaires. Donc la note obtenue est alors méritée et porteuse de sens pour l'élève. Elle est révélatrice du mérite scolaire. Donc, en guise de conclusion, je vais revenir en arrière. Cette nouvelle professionnalité mobilise ce que j'ai appelé la logique de l'efficacité scolaire, que l'on peut différencier d'une professionnalité qui s'inscrit plus sur une logique domestique où la personne est le pivot de l'activité. Donc l'externalisation des règles du travail, leur dynamisation, c'est-à-dire leur activation selon les contextes, donc nous apparaît particulièrement importante dans la compréhension du métier d'enseignant en LP, et notamment au moment de la réforme du bac pro en 3 ans, qui tend à contraindre les temps d'apprentissage et à resserrer les temps de certification, d'évaluation de certification. Donc je pose la question, il me semble que ce type de travail sur les règles de travail, s'interroger sur le métier, à mon avis, prend tout son sens dès lors que on resserre les temps d'apprentissage et les temps d'évaluation. Donc une analyse du travail de l'enseignant appréhendé sous l'angle de la compréhension de la construction des règles en fonction du contexte, donc nous apparaît comme une piste pertinente face à la multiplication des tâches demandées à l'enseignant, tout intégrant aussi la compréhension de la situation par les élèves. Donc je renvoie par exemple aux situations de l'accompagnement personnalisé. N'y aurait-il pas des règles de travail de l'enseignant à mettre en œuvre ou à construire lorsqu'on est en situation d'accompagnement personnalisé? Donc je n'ai pas travaillé sur ce sujet, donc je je mets en débat. En termes de conclusion, donc j'ai identifié, donc là c'est sur le registre donc des logiques mises en œuvre. Alors ma présentation était, j'ai tracé à grands traits, mais ce que je veux préciser, c'est que ce sont des tendances. C'est des tendances qui se profilent, mais j'ai utilisé des logiques et une description en mettant en avant les caractéristiques fortes. Et j'ai rajouté un élément dans ma conclusion, parce que hier a été évoqué la notion, la théorie donc de pédagogie visible et pédagogie invisible. Donc c'est Laurent Veillard qui en a parlé, et Bernstein s'est intéressé au mode de transmission des savoirs du point de vue de l'élève. Donc, et il parle de pédagogie visible et pédagogie invisible, dans le sens où dans la pédagogie visible, les savoirs sont segmentés. Il y a un séquençage très explicite qui est fait de ces savoirs, et avec des règles très précises. Et la pédagogie de l'enseignant, elle est très visible par l'élève. Et d'un autre côté, il y a une pédagogie invisible qui laisserait la place à l'apprentissage de compétences ou de résolution de problèmes. Et cette pédagogie est moins visible par les élèves. L'enseignant sait où il va, mais l'élève sait un peu moins ce qui est attendu de lui et ce qui est ce qu'il doit faire. Alors Bernstein, lorsqu'il a fait des études donc en Angleterre sur les élèves de la middle class, s'est rendu compte que ses élèves réussissaient mieux avec cette pédagogie visible. Alors, par rapport à l'étude que j'ai faite, et c'est encore une tendance, hein, je reprécise pour bien moduler mes propos, les enseignants expérimentés, donc qui sont depuis un certain nombre d'années, donc les enseignants que j'ai interviewés, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils exercent en lycée professionnel, ils sont sur une approche du métier qui serait, enfin, ils ont une pédagogie plus de type visible, avec des savoirs segmentés, c'est-à-dire que il y a on apprend à s'échauffer. Je vais illustrer, savoir segmenter, c'est on apprend à s'échauffer, on apprend à arbitrer, on apprend à jouer, à faire un match de badminton. C'est très caricatural, mais c'est pour préciser. Mais ces enseignants, les enseignants que j'ai interviewés, les règles de travail, elles ne sont pas visibles. Les règles sont illisibles par les élèves, mais ils savent que c'est comme ça. L'enseignant a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, et ils vont demander aux enseignants. Donc, des règles de travail illisibles, IE, non explicitées. D'un autre côté, dans la version nouvelle professionnalité, on se rapprocherait plus d'une pédagogie invisible, mais avec un cadrage qui est fait par les enseignants et avec des règles de travail explicitées qui permet aux élèves de s'engager donc dans l'activité de résolution de problèmes ou de travailler une compétence plus élargie. Voilà, je vous remercie.